Valérie Hansen va donc nous donner sa quatrième conférence. Et comme elle l'a dit, elle remonte dans le temps. Donc maintenant, c'est sur, après nous avoir entretenus sur les prémices de la modernité et de la mondialisation chinoise, elle va nous parler de la mémoire de la Chine et la mémoire telle qu'elle sort de terre avec l'archéologie. Alors ça peut paraître paradoxal parce que 1000 ans d'archéologie chinoise, ça nous met à l'époque des Song, personne n'irait dire en Occident 1000 ans d'archéologie romaine ou 1000 ans d'archéologie grecque. L'archéologie plus ou moins scientifique chez nous apparaît à la fin du XVIIIe siècle ou même au XIXe. Il semblerait que en Chine, les choses étaient la connaissance scientifique des traces matérielles du passé était quelque chose de déjà bien avancé et bien structuré à l'époque des Song. Et donc voilà, nous allons nous en convaincre maintenant et je te passe la parole.
Ok, merci. Bonjour messieurs, mesdames. J'aime beaucoup ce que monsieur Granet vient de dire. L'archéologie est plus ou moins scientifique. C'est le sujet de ma conférence aujourd'hui, plus ou moins scientifique. Je veux commencer avec des informations tirées de l'Internet. Ici, on peut voir que chaque année, on annonce les Oscars dans le domaine de l'archéologie, et, c'est-à-dire les 10 sites la plus importants l'année. Et l'existence de cette liste nous montre l'importance extraordinaire de l'archéologie en Chine. De nos jours, il y a un niveau national, un niveau provincial et un niveau municipal des équipes de l'archéologie. Et alors, nous savons qu'il y a beaucoup d'archéologues en Chine. Le tourisme archéologique est très important pour la Chine et tous les touristes visitent les sites comme celle de Terre Cuite ou les tombes des empereurs proches de Pékin. Et chaque ville a ses sites importants visités par tous les visiteurs. Les touristes. Ici, la vue, j'ai écrit le F pour féminine, un nom féminin, que personne n'a vu dans le passé. C'est seulement après les fouilles qu'on peut voir l'armée des soldats de Terre Cuite. Chose étonnante, il y a peu de ruines en Chine. On peut visiter la ville interdite à Pékin ou les ruines du royaume de Gaochang près de Turfan, à Xinjiang. Mais de tels sites sont très rares. Quand est-ce que les Chinois ont commencé à s'intéresser à l'archéologie? J'emploie le mot le mot dans un sens général, c'est l'intérêt que l'on porte aux objets enterrés. Et comme je veux expliquer aujourd'hui, l'archéologie existait déjà pendant la dynastie Tang et probablement plus tôt. La définition d'archéologie aujourd'hui est celle du domaine académique. Ça, c'est la définition scientifique, comme avec le principe de la stratigraphie. Et on sait que les objets qui sont enterrés par niveau, les objets sont enterrés par niveau et les plus bas doivent être les plus anciens. Voici un exemple de stratigraphie. On voit très bien les différentes couches stratigraphiques. Stratigraphique. ma conférence aujourd'hui, je veux parler au sujet avant 1900 ans, au sujet des traditions tirées de l'expérience et la tradition textuelle. Et après 1900, quand les deux traditions ont se rencontré. Je commence avec le voyage d'un moine japonais qui s'appelle Ennin. Et il était en Chine depuis 838 et 846. Et en 840, il a visité le centre de pèlerinage bouddhique de Mount Wutai. Wutai est le nom de la montagne. Pendant 2 mois, c'est à l'intérieur de la Chine. C'est ici. Maintenant dans la province de Hebei. Et là, il a rencontré un moine coréen qui a rêvé qu'un Bouddha lui disait qu'il devait fouiller dans une section au sud-ouest de son monastère. Et ici, nous avons le récit de Ennin, où il explique ce que le Dieu a dit au moine coréen. Ennin, le moine japonais, nous explique que le moine coréen cousa avec une houe. Quand il fut autour de poitrine, il découvrit les statues. Et après cette découverte, il a créé son propre exposition pour les fidèles. Et ici, Ennin a expliqué, a listé les statues qui étaient dans la collection de moines coréens. Ici, ces exemples sont tous tirés du musée de l'art de l'Asie à San Francisco. Nous avons le statue de Maitreya, le Bouddha Maitreya de Guanyin. Ici, c'est un dessin, pas une statue de Manjushri ou Wenshu. C'est le dieu de la montagne de Wutai. Et le dieu de la montagne voyage toujours avec son lion. Et ce sont des objets très, très beaux. On peut imaginer que les statues de moines coréens devaient être beaucoup plus rudimentaires. Et selon Ennin, le moine coréen a aussi présenté une boîte avec les os du Bouddha qui pèse plus de 20 livres. Nous pouvons imaginer que le moine a ramassé tous les os qu'il a trouvés dans le sol et placé les os dans la boîte. Le soir, Ennin allait avec les autres fidèles pour voir les statues et ils ont fait les dons. Et c'est probable que le moine coréen a récupéré les dons par la suite. Ça, c'est la tradition. On peut voir dans cet exemple la tradition tirée de l'expérience. Les moines, comme le moine coréen, les agriculteurs, des gens qui travaillent dans le champ, ils sont souvent, presque toujours, analphabétisés, Mais ils savent que les objets enterrés sont plus anciens que les objets à la surface du sol. C'est différent de la tradition textuelle, et ce sont la tradition des lettrés. Aujourd'hui, je veux parler souvent au sujet des lettrés chinois. Sous la dynastie Song, ce sont les hommes qui ont reçu une éducation traditionnelle. Ils ont lu les classiques chinois et ils ont pris les examens. Quelques des lettrés deviennent les fonctionnaires. Les autres écrivent livres et font ses études. J'ai dit ici que les lettrés, ils lisent les livres, ils ne fuient jamais. Et on peut voir la tyrannie des caractères chinois. Ça, c'est l'expression de le professeur Victor Mayer, qui explique que quand un objet a les caractères écrits sur l'objet, les chercheurs pensent seulement aux caractères et ne pensent pas à le contexte plus grand. Et nous pouvons voir la tyrannie des caractères chinoises aujourd'hui. Où se rencontrent les deux traditions? Et pendant la dynastie de Song, c'est vers l'an 1000, au point de vente, quand les lettrés achètent les objets trouvés par les analphabétisés. Et les lettrés commençaient à s'intéresser dans le monde passé pendant le temps de l'empereur Renzong. Et il était un empereur qui voulait réformer les rites de l'État et commencer avec la musique. Et selon les livres classiques, la musique, les livres classiques en Chine, la musique a une puissance extraordinaire. Si on peut recréer la musique ancienne, on croit qu'on peut tirer la puissance des sages anciens. Et l'empereur Renzong a utilisé les cloches anciennes pour recréer la musique des anciens rois sages. Et après ça, les lettrés commencent à développer un intérêt pour les bronzes anciens. Voici dans la carte de la Song du Nord, la dynastie Song du Nord. Nous avons trois villes importantes. Luoyang, ma flèche A. Luoyang est la capitale de dynastie avant les Song et la dynastie Song. Et c'est là où on a trouvé la plupart des bronzes anciens pendant la dynastie Song. Chang'an, c'est maintenant la ville de Xi'an. Chang'an était la capitale de la dynastie Tang. Et Kaifeng était la capitale de la dynastie Song du Nord. Les lettrés ont écrit trois livres importants pour comprendre qui expliquent le début de l'archéologie chinoise. Et ici sont les auteurs et les noms de leurs livres. Nous commençons avec Ouyang Xiao, qui était vraiment brillant. Après les réformes de l'empereur Renzong, Ouyang Xiu a commencé à amasser une collection de plus que 1000 décalcages d'inscriptions. Et il écrit son livre au sujet de son collection, sa collection, et son livre reproduit les décalcages et aussi les explications de Ouyang Xiu au sujet des inscriptions sur les bronzes. Il n'y a pas d'illustration dans ce livre parce que Ouyang Xiu s'intéresse en les signes chinois, pas en les bronzes eux-mêmes. Et on peut voir encore la tyrannie des signes. Le deuxième livre qui est important est celui de Lu Dalin, qui s'appelle Les illustrations d'objets anciens. C'est différent du livre de Ouyang Xiu. On peut voir que les dessins des bronzes et ici le décalcage de l'inscription. Les inscriptions sont souvent sur le fond des bronzes et ici la transcription. Et après le dessin de bronze et le décalcage et la transcription, on a une explication de du sens de l'inscription. Lu Dalin a écrit au sujet de plus que 200 bronzes et 13 objets faits de jade. Et il cite les livres de classiques, les livres au sujet des cérémonies anciennes, pour faire une comparaison entre les objets trouvés et les livres classiques. Et selon lui, les antiquités offrent un accès à la voix des sages. Mais il faut qu'on regarde l'objet, lit l'inscription et décrit son aspect. Et après faire les trois activités, on peut mieux comprendre la voix des sages. Il a découvert une méthode nouvelle pour analyser les bronzes et c'est la méthode de se nommer. En chinois, c'est Zimingfa. À cette époque, c'est pendant la dynastie de la Song, on ne comprenait pas la fonction originale de chaque bronze. Alors, imaginez que vous êtes archéologue à l'avenir et vous avez trouvé une tasse comme celle-ci, mais vous ne savez pas la fonction de cette tasse. Et après, plus tard, vous avez trouvé une autre tasse, mais cette tasse écrit sur la surface « tasse de café ». Et vous avez les livres au sujet de la vie des hommes de notre temps. Et vous savez que peut-être quand un président se rencontre un autre président, ils boivent café dans une tasse de café. Alors, ça, c'était le travail, la grande découverte de Lu Dalin, que les noms dans les livres correspondent aux noms sur les bronzes. Il y a quelques bronzes avec seulement un mot. Ici, c'est trois mots en français, mais en chinois, c'est plus laconique. Il y a des bronzes avec seulement un mot, mais c'est plus souvent quand on a une inscription comme ça, qui explique la fonction, qui explique que la bronze était utilisée pendant une cérémonie. Et les textes comme celle-ci, celle-ci, sont souvent sur le fond de bronze. L'année 2006, les archéologues chinois ont découvert la tombe de Lu Dalin, l'auteur de ce livre, et il était très ingénieux
il a, pour contrecarrer les voleurs de tombes, il a créé deux fausses tombes. Vous pouvez les voir ici. Il était vide. Et puis, ici, c'est la vraie tombe où on a placé les objets, comme les céramiques et aussi les bronzes. Et la structure nous montre que Ludaline est au courant des pileurs des tombes. Ils comprennent qu'il veut fouiller tous les tombes pour chercher les objets. Et alors, il a fait ça pour le contrecarrer. Le troisième livre, c'est celui de Zhaoming Cheng, qui s'appelle l'étude sur les inscriptions sur les bronzes et les stèles. Dans son préface, il a écrit cette explication. Et c'est intéressant parce qu'il comprend la différence entre les sources primaires, c'est-à-dire les inscriptions sur les bronzes, et les sources secondaires, c'est-à-dire les livres qui sont écrits après les événements. Il a écrit le préface, mais sa femme a écrit un postface, c'est après le livre, au fin du livre. Elle a, dans ce postface, elle veut écrire l'histoire de leur collection. Leur collection était énorme. Ils ont besoin de 20 charrettes pour la bouger, pour déménager. Et elle a commencé avec, ici, avec les charrettes. Et ils vivent en Nord, mais c'est le temps de chute du Nord, c'est la dynastie de Song du Nord est tombée, et on commence, la dynastie Song du Sud a commencé. Et c'était nécessaire pour Li Qingzhao, c'est la femme, d'aller à toutes les villes comme ça. Et sa collection est impossible, c'est trop grand. Pour se déménager, elle a jeté les objets. Toujours, elle a jeté les objets. Et enfin, il n'y a qu'une boîte avec quelques décalcages Son récit est un rare exemple d'autobiographie en Chine et aussi un de quelques textes par une femme dans la Chine traditionnelle qu'on peut lire aujourd'hui. Les trois livres ensemble ont créé la tradition de Jinshi-xue. Jinshi-xue, c'est la traduction directe, c'est simplement étude sur les métaux et pierres. Mais le vrai sentiment, c'est les études sur les inscriptions sur les métaux, c'est-à-dire les bronzes, et pierres, c'est-à-dire les stèles. Pour les lettrés qui font des études sur l'inscription sur les métaux et les pierres, l'inscription est beaucoup plus importante que l'objet lui-même. Et cette tradition a continué jusqu'au 1900. Et 1900, les deux traditions archéologiques, c'est-à-dire l'étude des textes et aussi la tradition de connaissance de l'expérience se rencontrent. Et au début du XXe siècle, on remarque beaucoup d'événements liés à l'archéologie. Vous pouvez lire vous-même. Je veux les expliquer. Le premier, c'est jusqu'avant, début du XXe siècle, c'est la découverte des os de dragon. Et les os de dragon étaient un médicament qu'on a pris pour guérir la paludisme. Et on fait une soupe avec les os, les os de dragon. Mais à Pékin, à cette époque, un des lettrés remarquait que sur les os, il y a des signes. Et les signes sont plus anciens que les signes sur le bronze. Et on peut voir ici les signes chinois. Aujourd'hui, ce matin, j'étais au musée Guimet et on peut les voir là. On dit les os de dragon, mais on peut voir les inscriptions de la dynastie Shang. Les rois de la dynastie Shang a demandé aux leurs ancêtres les questions au sujet de leur vie et aussi de la guerre. Ils ont placé les os. Et aussi, ici, c'est le plastron d'une tortue. C'est le dessous de la carapace. On plaçait les os dans le feu. Et quand on a lu les fissures pour répondre aux questions, c'est une forme de prognostication. Au commencement, on peut dire les pilleurs de tombes ont trouvé ces os et faire le commerce avec les os. Ils ne veulent pas expliquer aux lettrés l'origine des os, mais enfin, on a retrouvé leur origine à Anyang, c'est dans la province de Henan. Et en 1928, on a commencé les premières fouilles scientifiques dirigées par les Chinois. On revient à 1900 et on voit ici deux pièces de monnaie de la dynastie Sassanide qui sont employées à Xinjiang. Et en cette année, Sven Hedin, qui vient de la Suède, on dit, Sweden, et après Oral Stein, arrive à Nia, et c'est en Xinjiang actuel. Et il travaille avec les locaux, dont les voleurs de tombes, comme par exemple Machik, qui a travaillé avec, pour Oral Stein. Et Machik a expliqué à Stein qu'il a sa propre technique de fouiller. Il brisait avec force les mâchoires des morts pour trouver les pièces d'argent dans leur bouche. Et on a cru pendant la dynastie Tang que les pièces peuvent aider les morts dans l'autre monde. Quand les archéologues comme Oral Stein arrivent en Chine, ils cherchent toujours les hommes locaux qui connaissent les sites les plus importants et la location où on peut trouver les objets archéologiques. Oral Stein, peut-être parce qu'il ne peut pas lire chinois, a posé des questions différentes de celles des savants chinois, des lettrés chinois, et il veut comprendre comment les civilisations de l'Inde, de l'Iran et de la Chine se sont mélangées dans l'Asie centrale. Stein est bien sûr fameux pour ses découvertes à Dunhuang, et il est allé à Dunhuang en 1907. Et après l'année après Stein était là, Popelio est arrivé à Dunhuang. Et tous les deux apportaient beaucoup de documents, mais quand Popelio est à Pékin, il a montré les photographies aux ses collègues chinois et c'est la première fois qu'ils comprennent l'importance de Dunhuang. Et le professeur Wong Xinjiang est maintenant enseignant à l'Université de Pékin et à son avis a un peu blâmé les Européens. Mais il faut admettre que les lettrés chinois ne sortaient jamais de leur bureau. Parce que ça, c'est l'influence de la tradition d'étudier les inscriptions sur bronze et sur la pierre. On peut rester dans son bureau en lire les signes chinois. Le Flinders Petrie était un archéologue en Angleterre et qui a fouillé en Égypte et est devenu professeur à University College à Londres. Et il était un collègue de Stein, ou peut-être un ami de Stein, de Orlstein. Et Orlstein, il a lu beaucoup de ses livres et a eu un pouvoir ici les leçons tirées de le livre de Flinders Petrie par Orlstein. Et peut-être ici on commence, l'archéologie scientifique commence ici, pas plus ou moins, plus qu'en avant, alors. On peut voir l'influence de Flinders Petrie sur Orlstein, sur Orlstein, mais aussi sur Sinai, qui était le plus important archéologue en Chine. Il a commencé ses études archéologiques à Anyan avec Li Ji, c'est-à-dire c'est avec à chercher les os de dragon. Et il a reçu une bourse et a étudié sous Flinders Petrie à Londres. Et en 1989, quand beaucoup d'archéologues ont quitté la Chine pour Taïwan, Sinai est resté en Chine. Et il devient le directeur de l'Institut d'archéologie nationale. Et on peut lire, en anglais, on peut lire sa thèse de doctorat au sujet de l'archéologie de l'Égypte. Alors, pourquoi est-ce que l'histoire de l'archéologie est importante? Une réponse, on peut mieux comprendre la direction de l'archéologie chinoise aujourd'hui. Les archéologues s'intéressent aux questions qui viennent de l'histoire écrite de la Chine et on cherche encore les différences entre les sources historiques et les objets trouvés. Et les départements d'archéologie en Chine sont souvent liés au département d'histoire, et c'est différent aux pays étrangers. L'histoire de l'archéologie est aussi importante pour comprendre pour décider si une société est moderne ou non. Et au début, c'est le temps de Jésus-Christ. Il n'y a que deux époques, le passé et le présent. Mais en Europe, on a commencé à avoir l'idée de l'art moderne. Et au XIIe siècle, les savants européens avaient décidé que leur époque était différente que les époques plus anciennes. Ils pensaient qu'il y avait trois époques, l'Antiquité, le Moyen-Âge et le présent. Dynastie des Song n'est pas la même. J'ai déjà parlé au sujet du livre de Alexander Woodside, du professeur Alexander Woodside, et qui s'appelle Lost Modernities, et qui veut que nous voulons mesurer la modernité d'une société, que ce n'est pas simplement une question d'industrialisation, capitalisme, mais on peut penser au système d'organisation sociale et aux dynasties de la Song. On a une vraie méritocratie. Et son opinion, c'est l'opinion de Woodside, est semblable à celle du professeur Naito Torajiro, historien japonais, qui proposait que l'époque de la dynastie Song était le début de l'ère moderne. Et Naito Torajiro s'intéresse dans la transition d'une aristocratie vers la bureaucratie. Il a remarqué aussi que l'économie chinoise est devenue beaucoup plus commercialisée pendant la dynastie Song avec l'expansion des marchés. Et il a remarqué aussi que la culture a changé et l'intérêt pour l'antiquité a commencé. Et il y a deux générations de spécialistes américains qui étudient l'histoire de l'archéologie. Et la première génération, il n'y a qu'un professeur, on peut dire génération, qui s'appelle R.C. Rudolph, il pensait que l'archéologie sur la dynastie Song était scientifique et que les archéologues s'intéressent à comprendre les bronzes et les bronzes anciens et leurs toutes les caractéristiques. Mais la deuxième génération pense que l'archéologie sur la dynastie Song avait un élément mystique. Les lettrés voulaient restaurer l'antiquité et ils pensaient que malheureusement leur époque, c'est-à-dire la dynastie de Song, était différente de celle des sages et rois anciens. J'ai déjà montré cette diapositive dans ma deuxième conférence. Et ici, c'est un carré d'encens que l'empereur Gaozong a donné à ses courtiers. Mais il veut aussi que, et on écrit les quatre signes, disent que le pays soit fort et l'antiquité restaurée. Selon mon avis, la dynastie Song a établi le début de l'époque moderne parce que le développement économique était très rapide. La production à grande échelle existait dans plusieurs secteurs économiques. Ces contacts internationaux affectaient profondément la vie à la fois des producteurs, spécialement ceux qui vivent en Asie du Sud-Est, et des consommateurs chinois, autant dans les villes portuaires de la Chine et dans les régions intérieures aussi. Je constate que la mondialisation a commencé sous la dynastie Song et l'intérêt pour l'Antiquité est aussi un signe de modernité. Merci.